nzamba
nzambira samirana
Nous sommes jeudi 7 octobre 2021 et c'est le moment de suivre le journal sur la radio Inzambagateka Kawe. Mais d'abord les titres. Bientôt la malaria, l'une des maladies les plus dévastatrices dans le monde, pourrait n'être qu'une histoire ancienne. Et pour cause, un vaccin antipaludéen vient d'être homologué par l'OMS. Et puis l'armée burundaise érige une position militaire dans la localité de Kumkaratusi, dans le territoire d'Ouvira en RDC. Le but est d'y abriter des soldats et des Imbonerakure qui seront chargés de traquer des rebelles burundais qui seraient établis dans cette zone. Dans ce journal, vous découvrirez les raisons qui empêchent Evariste Ndayishimiye de pouvoir changer quoi que ce soit dans le pays. Il s'agit de Léonidas Hatsungimana, ancien porte-parole de Pierre Nkurunziza et compagnon de l'actuel chef de l'État au sein du parti CNDD-FDD. Et voilà pour les titres. Alice Akimalet au micro, bonjour et bonsoir à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Ouvrons ce journal par ces brèves. Ce mercredi 6 octobre, deux corps sans vie de jeunes enfants ont été découverts. Ils étaient enterrés à 3 mètres de la maison d'une certaine Mouimoune Judith sur la colline de Ruyaga, commune Sangara en province de Ngozi. Il s'agit d'Ondaïgamie Kevin, âgé de 4 ans et 3 mois, fils de Mitabakana Hernan et Sindekulimana Languide. Le deuxième, Irakoze Nikez, âgé de 5 ans et 3 mois également, fils de Chimilman Honoré et de Niozima Godeliev. Les corps étaient enterrés dans un petit fossé. La cause de leur assassinat serait de conflits familiaux. 4 suspects ont été appréhendés pour raison d'enquête. Ces enfants avaient disparu le lundi vers 9h. Et donc 2 jours avant la macabre découverte. Et la cour militaire a condamné à la prison à vie ce jeudi à Muyinga le soldat de première classe Gérard Niomungere qui travaillait au 212e bataillon de Guiterani. Il est poursuivi pour l'assassinat d'Isaac Manuambona et tentative d'assassinat sur 2 autres hommes dans la nuit du 5 septembre dernier sur la colline de Mugano, selon des sources concordantes à Guiterani. La cour a en outre condamné le soldat Niomungere au paiement de 30 millions d'honorants pour dommages et intérêts pour les ayants droit de Manuambona et pour les 2 autres blessés. S'il ne paye pas les 30 millions, il devra subir une peine de contrainte par corps de 150 ans selon le prononcé de jugement. Le tribunal militaire avait d'abord condamné Niomungere à la prison à vie au paiement de dommages et intérêts de 60 millions de francs ou à défaut d'un emprisonnement de 300 ans comme contrainte par corps en cas de non-paiement des 60 millions. Le militaire avait interjeté appel. Une position militaire a été érigée par l'armée burundaise depuis bientôt un mois dans la localité dénommée Kumukaratusi, dans le territoire d'Ouvira, en République démocratique du Congo. Ces militaires sont du 212e bataillon commando en opération depuis quelques temps dans la réserve naturelle de la Rukoko. Le dit bataillon est dirigé par le lieutenant-colonel Avon Ndayishimiye. Cette position, basée de l'autre côté de la rivière Rusizi, aurait pour mission d'accueillir des militaires, des Imbonerakure et des agents de services de renseignement qui se prépareraient pour aller traquer des rebelles burundais basés à l'est de la République démocratique du Congo. La population de la plaine et les usagers de la route Uvira-Bukavu sont terrorisés par cette présence militaire burundais. Plus de détails avec Benny Axelakan.
Les informations que nous détenons des sources de la radio Inzamba à Gateka Kawe au sein des militaires du 212e bataillon commando sous le commandement du lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye et renchéri par les défenseurs des droits humains locaux à Uvira révèlent que les militaires du 212e bataillon commando ont implanté une position militaire au-delà de la frontière burundo-congolaise dans le secteur de Kiliba-Ondes dans une localité dénommée Kumukaratusi. Les mêmes informations font savoir que cette position a été érigée dans cette localité depuis le début du mois de septembre dernier. Les militaires qui occupent cette position sont de la 3e compagnie du même bataillon, le 212e bataillon commando. Le commandant de compagnie, c'est un officier du grade de major. Il était chargé des renseignements militaires au sein du bataillon S2 dans le langage militaire. Les informations qui proviennent de certains des militaires de ce même bataillon font savoir que l'occupation par des militaires burundais sur le terrain de la République démocratique du Congo datait de l'époque de feu président Nkurunziza, que récemment il pouvait y avoir des mouvements mais pas occupation. Les mêmes sources indiquent qu'ils ont franchi la rivière Rusizi à l'aide d'une vedette des forces marines du Burundi. Ils ont traversé entre la 7e et 8e transversale, continuent les mêmes sources. La position militaire de la localité dit Kumukaratusi est équipée d'un moteur générateur d'énergie pour la recharge des outils électroniques comme les téléphones et les batteries d'accumulateurs des radios de transmission. Les militaires de cette position auraient comme rôle d'accueillir des Imbonerakure et les agents du Service national des renseignements pour préparer des offensives contre les rebelles burundais des mouvements Red Tabara et FNL du général Aloïse Nzabamema qui seraient basés à l'est de la République démocratique du Congo. Les citoyens congolais, essentiellement les usagers de la route Uvira-Bukavu, sont inquiets de leur sécurité au vu des navettes des hommes armés en uniforme de l'armée burundaise. Les défenseurs des droits humains demandent au gouvernement congolais et aux Nations Unies d'exiger le départ des militaires burundais. À propos de toutes ces révélations des militaires burundais sur leur présence en République démocratique du Congo, nous avons essayé de contacter le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais sans succès.
Un membre de la milice Imbonerakure dans la commune de Bururi est accusé par la population de perturber la sécurité et de participer dans les cas de disparition forcée signalés dans cette commune. Jean-Claude Ndouamahoro réside sur la colline Kiremba où il tend des embuscades pour dépouiller les passants de leurs biens. La population demande à l'administration et à la police de redresser cet Imbonerakure qui constitue une menace dans la localité. Le point avec des Nijimbere.
Le cas le plus récent est l'embuscade que Jean-Claude Ndouamahoro a tendu à une personne qui venait du marché pour acheter du fumier. Sur base des imitations qu'il lui a proférées, la personne a fini par lui donner tout ce qu'elle avait, dont une somme d'argent et le fumier qu'elle venait d'acheter. Jean-Claude Ndouamahoro est accusé également de collaborer avec les agents de l'ordre qui arrivent des citoyens et par après porté disparu.
Cet Imbonerakure constitue une menace sur la sécurité des citoyens en pillant leurs biens et en les terrorisant. Dernièrement, il a dépourvu un habitant qui rentrait du marché de tous ses biens, y compris l'argent et le fumier. Il est accusé de participer dans les actes d'enlèvement des personnes sur base de simples soupçons. Zokila Claude est un exemple des personnes qu'on a enlevées et qu'on n'a pas encore retrouvé.
Les habitants de Kiremba, en province de Bururi, demandent à l'administration et à la police de tout faire pour préserver la sécurité de la population et surtout de veiller à son milicier qui se substitue aux forces de l'ordre.
Nous demandons à l'administration de corriger cette Imbonerakure qui menace la sécurité des citoyens. Que la sécurité soit garantie par les agents de l'ordre et que cet Imbonerakure sache comment cohabiter avec d'autres citoyens. Nous interpellons toutes les victimes de la barbarie de cet Imbonerakure de porter plainte devant les instances judiciaires.
Pour ces habitants de Kiremba, Jean-Claude Ndouamahoro serait soutenu par les agents de la police et du renseignement, surtout dans l'enlèvement de ces personnes. Nous n'avons pas encore eu les contacts de Jean-Claude Ndouamahoro pour savoir ce qu'il pense de ces allégations. La radio Inzamba a également essayé de contacter par téléphone l'administrateur de la commune de Bururi, Félix Nyongabo, sans succès.
Inzamba.
Et suite de cette édition, le président de la République est loin de joindre ses paroles aux actes. Il est bâillonné par un système fait de ce que qualifie le président PPD Guy Jambo de cercle de vrais décideurs. C'est l'analyse de Leonidas Yatungimana, président de son parti et ancien compagnon d'Evariste Ndayishimiye dans le parti CNDD-FDD, faisant allusion aux différentes décisions verbales et écrites du président, ceux qui sont destitués et qui par la suite sont promus. C'est parce que le système craint que des secrets internes soient divulgués. Suivez Leonidas Yatungimana.
Je vais comparer le président Evariste Ndayishimiye avec un président, oui, qui est dans une voiture décapotable, qui se tient debout, et quand il est en train de parler, il parle pour se construire, pour construire son image, non pas l'image du pays. C'est quelqu'un qui est en train de caresser le deuxième mandat de 7 ans. Et il sait que ceux qui peuvent lui donner cette chance, c'est d'une part, c'est le peuple burundais, et d'autre part, c'est le groupe des décideurs, le système du CNDD-FDD, qui est composé par des membres du conseil des sages non officiels. Le président Evariste Ndayishimiye fait de bonnes déclarations, prend vraiment de bonnes mesures verbales, publiques, quand il est en train d'accuser tel ou tel autre. Quand il vient de prendre cette décision, il retourne alors dans le cercle des décideurs et ceux-là analysent la décision ou la déclaration. Ils lui font savoir que, par exemple, celui-là, l'argent dont il parlait, qui est supposé avoir été dilapidé, une partie est allée au parti. Qu'une partie de l'argent a été utilisée pour construire une permanence telle, que l'argent a été utilisé pour louer des véhicules pour le transport des Bagumyabanga vers un meeting, par exemple dans le cas de l'Otraco, que les véhicules de l'Otraco ont été utilisés par le pouvoir et par le parti sans payer de manière gratuite. Et donc, je voudrais vous dire que l'Otraco a émis beaucoup de lettres au président de la République d'alors, président Nkurunziza, qui a écrit au parti CNDD-FDD pour les dettes que le gouvernement ou le parti devait à l'Otraco. Je vous dis que même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ces dettes n'ont pas encore été payées. Alors, imaginez donc qu'on fait ce film au président de la République Ndayishimiye et qu'on lui dise que si, par exemple, telle ou telle autre personne est déchue de ses fonctions, que c'est possible qu'elle étale, qu'elle divulgue les secrets de tout cela, alors il faut réhabiliter l'individu. Cette réhabilitation par nomination, c'est vraiment une chance pour ces personnes, puisque ces personnes, si elles ne sont pas réhabilitées comme une corruption, pour éviter qu'elles divulguent les secrets, elles sont tuées ou elles fuient. Si donc le président de la République déclare ceci, c'est vraiment du populisme. C'est pour lui, c'est pour sa personne, mais ce n'est pas l'image du pays.
Et si par hasard Evariste Ndayishimiye voudrait effectivement amorcer des changements, il faudrait qu'il se sacrifie et écarte tout ce qui l'empêche d'avancer dans la bonne voie. Encore une fois, Léonidas Satungimana.
S'il veut changer les choses, il doit non plus se tenir debout dans la voiture décapotable, mais il faut quitter cette voiture. C'est-à-dire qu'il faut changer les membres qui font son conseil des sages et mettre les membres qui sont compétents et qui ont les mains propres. Pour le faire, il faut changer d'abord certains noms. Il faut aussi, il y en a qui sont les dégommés de ses fonctions. Et le président Evariste sait cette manière de travailler. Il le sait parce qu'il a passé beaucoup de temps au secrétariat général du parti CNDD-FDD. Donc, s'il veut, il peut s'engager sur la voie de changer ses membres, de les remplacer, mais cela demande une force de caractère. Cela dit qu'il doit prendre le poste de président. Pour agir comme un président, il faut se donner comme un sacrifice au peuple. Est-ce qu'il a cette capacité? Qu'il ait la volonté, d'accord, mais cette volonté doit être une option, une détermination, non pas seulement un état. Il peut être quelqu'un de bonne foi, de manière naturelle, mais quelqu'un d'indécis. S'il est indécis, s'il n'est pas capable de prendre une décision qui peut lui coûter la vie, eh bien, il devait savoir que cette place n'est pas pour lui.
Inzamba.
Dans le domaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a approuvé un vaccin pour se protéger contre le paludisme. Cette approbation est considérée comme une percée dans la lutte contre le parasite qui tue des centaines de milliers de personnes par an. Dans sa déclaration, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé que ce vaccin est un cadeau pour le monde et surtout son utilisation sera sentie en Afrique où le paludisme a fait plus de morts en 2019. Qu'en est-il au Burundi? On en parle avec Diane Nkurunziza.
La situation épidémique du paludisme date de l'an 2019 au Burundi. La branche africaine de l'OMS a rapporté plus de 7 millions de cas de paludisme au Burundi, avec un chiffre de près de 3 000 morts. Le gouvernement burundais, de son côté, n'a pas confirmé qu'il s'agissait bien d'une épidémie. Cependant, en août de la même année, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, avait signalé 7,7 millions de cas de paludisme dans le pays avec 1800 décès depuis janvier. Le ministre burundais de la Santé était monté au credo à l'époque pour dire aux journalistes que le paludisme n'était pas encore une épidémie, alors que pour le Tchad, les chiffres étaient assez alarmants. Selon le rapport de septembre de la même année, le nombre de cas signalés au cours de la 39e semaine de 2019 a augmenté de 49% par rapport à la période en 2018. Depuis lors, la situation des cas de malaria dans le pays n'a pas été le souci du gouvernement et des ONG. La pandémie du Covid-19 est devenue la seule préoccupation pour le ministre de la Santé publique.
Et pour comme qu'on a causé chercheur dans le domaine des maladies épidémiologiques, le gouvernement du Burundi, à travers son programme de lutte contre le paludisme, devrait fournir plus d'efforts pour acquérir rapidement ce vaccin et coopérer avec l'OMS pour renforcer les recherches sur l'utilité de ce vaccin. On écoute comme qu'on a causé.
Au Burundi, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, recense une hausse de morbidité jusqu'à 65% des cas de consultation dans tout le pays. Et puis on a vu aussi une incidence progressive et des poussées épidémiques assez régulières. La prévention ou la lutte antivectorielle est le principal moyen de prévenir et réduire. C'est une avancée historique qu'il faut saisir, qui était très attendue d'ailleurs. Et pour le Burundi, comme pays endémo épidémique de cette pathologie de paludisme, le gouvernement, à travers son programme national de lutte contre le paludisme, devrait déployer des efforts assez rapidement pour acquérir son vaccin et de mener des études et des évaluations opérationnelles afin de déterminer l'intérêt d'investir dans son nouveau vaccin et de changer à la fin sa politique nationale de lutte contre le paludisme. À côté des autres méthodes, bien sûr, de prévention, parce que comme la COVID-19, ce vaccin n'exclut jamais les méthodes de prévention qui existaient déjà.
Et c'est une bonne nouvelle pour les Burundais qui ne cessent de réclamer le vaccin contre le COVID-19. Les premières doses arriveront au Burundi avant le 16 novembre prochain. Le ministre de la Santé l'a déclaré à la presse ce jeudi, après une réunion entre le Comité national de riposte contre le Covid-19 et les partenaires financiers. L'occasion pour le ministre Tadei Ndikumana de rappeler que la meilleure façon de lutter contre cette pandémie est le respect des mesures barrières. On écoute le ministre Tadei Ndikumana.
Le volet vaccination, comme vous le savez, nous travaillons étroitement avec l'UNICEF et l'OMS. Et nous avons commencé à mettre en place des équipes, des sous-comités techniques qui ont travaillé sur le plan de redéploiement, c'est-à-dire le plan logistique, mais aussi quels sont les sites qui vont être utilisés pour la dispensation du vaccin, comment est-ce que se feront la formation, la mise à niveau des prestataires de soins qui vont participer à cette campagne, quel est le plan de communication. Tout cela est intégré dans un plan qui sera validé incessamment. Et ce que je dirais ici, c'est que nous avons avec l'Union africaine, la Banque mondiale et l'UNICEF, eu la promesse que les premiers lots de vaccins pourront arriver ici entre le 25 octobre et la première quinzaine du mois de novembre, si tout va bien. Mais ici, je rappelle à la population qu'on doit toujours observer les mesures d'hygiène et les mesures barrières. Ainsi, le vaccin viendra comme un troisième outil de prévention qui pourra aussi contribuer à ce qu'ensemble nous pouvons faire face efficacement à la pandémie de COVID-19.
Et nous terminons ce journal par les conséquences de la tabulation permanente du bétail qui commence à se faire sentir dans la province de Bubanza. Je n'ai pas décrit de ces animaux qui ont faim. Par le manque de fourrage pour s'alimenter, le voisinage des étables se plaint. Comme solution, les éleveurs sont contraints de les vendre à bas prix par rapport à leur valeur réelle. Ces éleveurs craignent une misère dans un proche avenir, car leur bétail les aidait à subvenir à leurs besoins. Joséphine Jones-Muzimana pour les détails.
À cause du manque de fourrage, les beuglements et cris de chèvres qui ont faim gênent les propriétaires. Ils sont nombreux à chercher à s'en débarrasser en les vendant. Malheureusement, selon des éleveurs, les preneurs sont des bouchers qui proposent une somme dérisoire. Pour une vache qui coûtait 1 200 000 francs bouts, ils proposent 800 000. au marché de Bubanza, un coq qui a une valeur comprise entre 12 000 et 15 000 coûte au plus 5 000 selon des vendeurs. Pourtant, un kilo de viande de bœuf reste à 9 000 francs comme avant. Des éleveurs se lamentent en disant que se débarrasser du petit bétail par manque de pâturage ou d'espace d'élevage leur coûteront cher. Ils disent qu'ils ne pourront plus faire vivre leur famille, scolariser les enfants et satisfaire à d'autres besoins. Certains éleveurs qui habitent près de la frontière entre le Burundi et la RD Congo préfèrent migrer leurs troupeaux en RD Congo en conduisant leurs troupeaux dans ce pays. D'autres trouvent l'élevage en stabulation permanente trop cher et demandent à l'État de suspendre la mesure. Sinon, elle apportera la misère dans les ménages qui étaient déjà dans des conditions de vie très précaires.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de la radio Inzamba Gatika Kawe pour la production de ce journal. Un grand merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Au revoir.